Cours de philosophie première par le père Philippe Assin-Jodard, le 7 juin 1988.
Nous allons passer rapidement jusqu'à Descartes, dire un petit mot sur Descartes et Hamelin, avant d'essayer de réfléchir sur ce qu'est la relation. Chez Descartes, la relation est au point de départ, même si elle n'est pas explicitée. N'est-elle pas présente dans le cogito, puisque le cogito permet d'affirmer l'existence? Autrement dit, il y a une relation qui est affirmée tout de suite. Cogito ergo sum. La relation entre le cogito et l'existé n'est-elle pas présente dans l'application de la méthode mathématique à la métaphysique? Pour Descartes, le prototype de l'argumentation la plus parfaite, c'est modo geometrico. Et donc c'est le passage de la méthode mathématique à la métaphysique. Mais de la relation considérée en elle-même, Descartes ne traite jamais. Car la distinction qui l'intéresse n'est plus celle de la substance et des accidents, et notamment de la relation, mais celle de la substance sujet et de certains de ses modes, qui du reste ne sont même pas réels. Il n'y a donc plus de recherche de ce qu'est la relation, mais une description de tel ou tel fait relatif, ceux de l'esprit, notamment la relation qui unit les idées à la réalité existante. C'est ça qui est très curieux, du reste. Et ceux de la quantité, de l'étendue, c'est-à-dire les liens d'union, d'opposition des substances matérielles. La relation de l'âme au corps pose également à Descartes de graves problèmes. Mais la relation comme mode d'être relatif à la substance n'est jamais envisagée pour elle-même. Au fond, ça n'intéresse pas, c'est curieux, parce que d'une certaine manière, la substance telle que Descartes la conçoit, comme substance-sujet, ça devient une relation. Puisque c'est la substance capable de recevoir les attributs. Elle n'est plus regardée comme principe. Donc, si elle n'est plus regardée comme principe, elle est donc regardée comme source de toutes les attributions. Et par le fait même, elle-même comme quelque chose de relatif. Si la considération de la relation semble absente de la philosophie de Descartes, bien que l'exercice de la relation soit reconnu comme très important, Malebranche, par contre, affirme le meilleur usage que nous puissions faire de notre esprit, c'est d'examiner quelles soient les choses qui ont avec nous quelques liaisons. Alors à quoi sert l'esprit? Saisir les relations. Saisir les relations. Je mets Malebranche parce que Malebranche explicite. Chez Descartes, il n'y a pas d'étude de la relation. Uniquement l'exercice. Alors Malebranche explicite quelque chose, Malebranche qui est le père de l'ontologisme au sens fort. Le meilleur usage que nous puissions faire de notre esprit, c'est d'examiner quelles sont les choses qui ont avec nous quelques liaisons. Quelles sont les diverses manières de ces liaisons? Quelle en est la cause? Et quelles en sont les effets. Tout cela conformément aux idées claires et aux expériences incontestables qui nous assurent celle-là de la nature et des propriétés des choses, et celle-ci du rapport et de la vie et de la liaison qu'elles ont avec nous. Mais comme c'est curieux, donc on arrive vraiment à regarder que l'esprit est uniquement, n'a pas d'autre but que de saisir les liaisons. Les liaisons, les rapports. Mais pour ne pas tomber dans la bagatelle et l'inutilité, c'est Malebranche qui dit ça, c'est-à-dire pour ne pas tendre qu'à ce qui peut nous rendre heureux et parfaits, Malebranche estime que ce dont nous devons tâcher d'acquérir l'intelligence, ce sont des vérités, sont les vérités que nous croyons par la foi. Tout ce qui va les confirmer. Au reste, les soi-disant entités liantes dont parlent les philosophes ne sont que de vaines prétentions et productions chimériques de leur ignorance, indûment substituées au décret de Dieu lui-même. Dieu renferme dans la simplicité de son être les idées de toutes choses et les rapports infinis, généralement toutes les vérités. S'il existe un ordre dans les réalités créées, cet ordre provient de Dieu et est voulu par Dieu. Il n'existe que dans sa référence immédiate à la volonté divine. La relation en tant que détermination particulière affectant les réalités que nous expérimentons n'existe donc plus. Elle est comme absorbée par la dépendance immédiate de l'esprit à la volonté de Dieu. Vous voyez cette chose curieuse, chez Descartes comme chez Malebranche, la relation comme telle, c'est-à-dire la quiddité de la relation. Parce qu'en vérité, c'est ça. C'est la relation considérée pour elle-même dans sa forme, la quiddité de la relation, n'existe plus. Alors que l'exercice de la relation absorbe tout, tend à tout absorber. Alors, regardez pourquoi ça. C'est ça qui serait difficile à bien comprendre. Pourquoi, de fait, chez Descartes, la relation disparaît comme telle? Pourquoi chez Malebranche? Alors c'est l'enterrement de première classe. Je le dis explicitement. C'est des choses vaines. Aucun intérêt. Ah, voyez tout de suite au point de vue théologique, hein. On ne peut plus rien dire sur le mystère de la très sainte Trinité. Donc ça n'intéressera plus. Alors pourquoi ça? Est-ce parce qu'au fond, Descartes partant de l'idée d'infini, Descartes essayant de saisir avant tout le point de vue de la substance, la substance pensante, la substance quantité, il n'y a plus de place pour la relation. Il ne parle jamais d'une idée de la relation. Est-ce que c'est à cause de ça? C'est ça qui pourrait se poser comme point d'interrogation. Parce que, d'une certaine manière, si je mets le primat sur l'idée, je suis toujours dans la relation. Puisque les formes intentionnelles sont des relations, non plus d'absolu. Alors, on se demande si, de fait, commençant sa philosophie par les idées, on devrait être en présence d'une philosophie de la relation. et Descartes étant encore trop proche de la scolastique, ne peut pas abandonner la substance. La substance reste pour lui le point de référence, le sujet. Et alors, c'est ça qui est curieux. Ça, c'est les contradictions inhérentes à Descartes. On devrait être en présence d'une philosophie qui abandonne la substance et qui n'est plus qu'un tissu de relations. Descartes ne le fait pas, parce qu'il maintient la substance. Alors il n'y a plus que l'exercice de la relation. Il n'y a plus aucun regard philosophique sur la relation comme telle. Il faut attendre Hamelin pour réaliser ce qui est en germe chez Descartes. Dans le système idéaliste d'Hamelin, l'élément premier n'est pas l'être, mais la relation. Il n'y a d'intelligence, dit-il, que la relation. Hamelin part de la relation être abstrait et indéterminé pour aboutir à la conscience qui est l'être concret, actualisation plénière de la relation. Vous voyez, philosophie de la relation, philosophie de la conscience, c'est bien Descartes. Je crois qu'on aurait intérêt à mettre en parallèle les deux, par rapport justement à la relation. Et ça s'éclairerait peut-être beaucoup. Oui, nous regardons Descartes en fonction de la scolastique. Ce que fait Gilson, il a raison en historien. Gilson, avec beaucoup d'astuces, montre que tous les termes qu'emploie Descartes sont des termes scolastiques. Mais il montre aussi que la signification de ces termes chez Descartes n'est plus la même du tout que dans la scolastique. Autrement dit, il montre comment chez Descartes il y a une révolution interne au niveau des significations. Ce que je crois très vrai. Alors, il faudrait peut-être comprendre Descartes, non plus en fonction de ce qui est avant lui, si Descartes est révolutionnaire, petit bourgeois révolutionnaire de la pensée, petit bourgeois au niveau philosophique. Il faudrait regarder Descartes en fonction d'Hamelin, le philosophe de la relation. Et comprendre ce qu'Hamelin dit, au fond, c'est présent chez Descartes. Et que c'est par là qu'on aurait une unité chez Descartes, alors qu'il n'y a pas d'unité. Celui qui veut vraiment penser Descartes, donc appliquer le cogito de Descartes à Descartes, s'aperçoit tout le temps qu'il est en contradiction. C'est pour ça que c'est si difficile. Et vous avez des interprétations de Descartes qui sont diamétralement opposées. Parce que c'est une très grande confusion. C'est un philosophe qui veut être clair et dans la plus grande obscurité. C'est très, très curieux. Je ne sais pas, c'est le malaise qu'on a avec Descartes. On est dans la plus grande obscurité. Et je crois profondément, c'est qu'au fond, chez Descartes, il y a un renversement complet. Vous voyez, quand Descartes dit, parce que c'est une de ses paroles, quand même, où il dit explicitement, n'est-ce pas? Je l'ai déjà cité, parce que pour moi, c'est une des paroles les plus significatives de la méthode de Descartes. Quand Descartes dit, Aristote dit, eis esti, i esti, 1, 2, donc, existe-t-il? Picard et dit, faut faire l'ordre inverse. Et tout est là. Il y a donc une inversion chez Descartes qui est radicale. À la place de se poser la question, est-ce que cette réalité existe ? Jugement d'existence. C'est le qu'est-ce qui est premier. Le qu'est-ce est premier par rapport à l'idée. C'est très vrai. L'idée a une signification. Puisque l'idée a une signification, on se pose la question qu'est-ce ? Puis ensuite, on se demande est-ce que cette idée existe ? Existe-t-elle ? Bon, réfléchissez à ça. Si je pars du jugement d'existence, c'est l'être. Et l'être, c'est la substance qui est première. Si je pars de l'idée, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est une forme intentionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une forme intentionnelle ? Si vous essayez de comprendre ça dans un langage de philosophie aristotélicienne et de saint Thomas, qu'est-ce que c'est qu'une forme intentionnelle ? Une forme intentionnelle, c'est une relation transcendantale. Parce que la forme intentionnelle est tout entière tournée vers ce qu'elle signifie. Ce qui est signifié. Donc, la forme intentionnelle est une relation transcendantale. Et on commence par ça. Et on n'est pas devant, on est devant quelque chose de relatif. La forme intentionnelle, c'est du relatif. C'est quelque chose de relatif, c'est-à-dire une relation transcendantale. Donc, même si Descartes ne dit pas que ce qui est premier dans toute sa philosophie, c'est le relatif. Ce qui est premier, c'est l'idée. Ça, c'est sûr. Le cogito. Et vous voyez, l'idée, dans le cogito, c'est l'exercice de l'idée. C'est pas l'idée considérée en elle-même, c'est l'exercice de l'idée. Dans le cogito, je découvre l'idée. Mais qu'est-ce qui est premier ? C'est le cogito. Donc, c'est l'exercice de la relation. Et tout le reste devrait être regardé en fonction de cela. Ce que dit exactement Hamelin. Vous voyez, tandis que Descartes reste avec la nostalgie de la scolastique. Donc, on commence par la substance. La scolastique du temps de Descartes, c'est la substance. Et le sujet. Et c'est la substance sujet. C'est-à-dire la substance considérée du point de vue logique. Substance sujet. Et tous les attributs. La métaphysique de l'acte et de la puissance ont disparu avec Occam. Donc ont disparu avec Suarez. Et c'est l'idée d'être qui domine, l'idée de substance. Et donc c'est bien l'exercice du relatif. Je crois qu'il faut essayer de comprendre ça, vous voyez. Quelquefois on ne comprend une semence que dans les résultats derniers. De Descartes à Hegel, et l'Hegel français, c'est Hamelin. Et Hamelin dit les choses clairement. Il n'y a d'intelligence que la relation. c'est net. Amla part de la relation, être abstrait et indéterminé, vous voyez le mouvement avec les liens, pour aboutir à la conscience qui est l'être concret. Le mouvement profond de Hegel, c'est de passer de l'universel au concret, d'universel au singulier. Et toute la dialectique, en définitive, est faite pour ça. Donc, qui est l'être concret? La conscience, c'est l'être concret, le cogito. J'ai conscience de penser. Et la conscience est avant la pensée. J'ai conscience de penser. Oui, j'ai conscience de penser. Donc, la conscience est première. Pour aboutir à la conscience, qui est l'être concret, actualisation plénière de la relation. Son système est une dialectique synthétique. Et ce système se présente comme une sorte de preuve ontologique visant à établir que l'être, c'est l'esprit, et l'esprit en tant que conscience. Hamelin pose ainsi un esprit qui embrasse tout, qui est tout, et qui donc, en ce sens, est absolu, à condition que l'on entende par absolu non pas l'indéterminé échappant à toute relation, mais au contraire, ce qui contient en soi toutes les relations. L'esprit, c'est le lieu des relations. C'est ça. Comme Aristote avait dit que le nous est le lieu des formes intentionnelles. Le monde est une hiérarchie de rapports de plus en plus concrets jusqu'au dernier terme où la relation achève de se déterminer de sorte que l'absolu est encore le relatif. C'est Hamelin qui dit ça. L'absolu est encore le relatif. Hamelin précise. C'est le relatif parce qu'il est le système des relations. Et aussi, en un autre sens, parce que terme de la progression, il est le point de départ, par excellence, de la régression. Dans cette conception où tout a sa place marquée et sa relation assignable avec tout le reste, ou pour mieux dire, chaque chose est l'ensemble de ses relations avec les autres, terme d'un progrès, point de départ d'une analyse. Chaque essence définie sans danger de cercle vicieux. On trouve par la synthèse ce qu'elle doit soutenir et on y retrouve ce contenu par l'analyse. C'est encore là un cercle, mais il n'est nullement vicieux. Oui, c'est extraordinaire. L'intelligence, c'est le lieu, l'esprit, c'est le lieu de tous les relatifs ou de toutes les relations. Hamelin affirme que le premier principe de la méthode, le principe de l'opposition, et le premier élément des choses, le rapport, ne peuvent faire qu'un. Les choses sont donc constituées de rapports. Mais le premier principe de la méthode, c'est le principe de l'opposition. Et le premier élément des choses, c'est le rapport. Et les deux ne font qu'un. Mais Hamelin entend professer un idéalisme réaliste. C'est évident, parce qu'il fait une synthèse. Un idéalisme réaliste, pragmatique, n'admettant aucune idole, fût-ce celle de la relation. Seule idole possible, ce serait la relation. Et même cette idole-là, on le tue. Car la relation n'est pour lui, comme tous les noms analogues, nombre, temps, qu'une autre désignation, un peu moins déterminée, de la synthèse en général, de la totalité de la durée. Contre le prétendu réel des écoles dites réalistes, la chosification, c'est lui qui cite ça. Donc, contre le prétendu réel des écoles dites réalistes, Hamelin affirme que la réalité vraie est le rapport plus ou moins riche d'un contenu qui fait corps avec lui, parce que ce contenu est lui-même rapport. C'est de penser ça. Le caractère essentiel du rapport est l'impuissance d'être l'un sans l'autre. Alors on retrouve la relation des correlatifs. Hein? Ça, c'est intéressant. Parce que là, il y a quelque chose quand même qu'on peut saisir. Contre le prétendu réel des écoles réalistes, Hamelin affirme que la réalité vraie est le rapport, plus ou moins riche. Le caractère essentiel du rapport est l'impuissance d'être l'un sans l'autre. Caractère qui ne peut aller sans son opposé, d'où le principe de l'opposition. C'est-à-dire sans la nécessité d'être l'un sans l'autre, qui du reste est encore un rapport. Et le rapport où l'on pose que l'un est sans l'autre, c'est le nombre. Ainsi, la relation, le rapport pur, a pour antithèse le nombre, rapport spécifique postérieur au rapport pur, et la synthèse en laquelle il se concilie, synthèse exprimant que quelque chose existe, qui se trouve à la fois et indivisiblement liaison et dispersion, assemblage de termes discrets et pourtant non séparés, est une quantité continue, se développant en une série irréversible, simple et unique. Autrement dit, la notion de temps, oui. Très curieux, l'intégration de la quantité dans la relation. Mais au temps s'oppose l'espace, et leur synthèse est le mouvement. Et ainsi de suite. Au terme, on aboutit inévitablement à l'être concret, la personnalité. Dernier terme de la synthèse hegélienne, c'est la personnalité. Si l'être des relations précédentes se fondait sur autre chose, parce que ces relations n'étaient que des abstraits à des degrés différents, le rapport ultime auquel Hamelin aboutit ne doit plus renvoyer à rien d'autre toutefois. Il ne doit pas être l'existence en soi, car un rapport ne peut pas se figer en chose. Il faut donc qu'il soit rapport de soi avec soi, qu'il se donne à soi-même ses déterminations, qu'il soit pour soi, autrement dit qu'il soit libre. Oui, l'être pour soi de Sartre, il est Hamelin, il est chez Hamelin. Il est pour soi, c'est la personnalité. À ce niveau, la relation devenue la conscience avec ses divers modes a conquis l'actualité pleine. Elle est ce qui est la réalité, l'être. Ici s'arrête la synthèse progressive de la pensée. C'est extrêmement curieux. La relation va intégrer l'être. La relation intègre tout. Et la relation, en dernier lieu, dans ce qu'elle a de plus concret, c'est la personnalité. Et la personnalité, c'est l'esprit qui se pense. C'est l'esprit qui se pense. Parce que c'est la relation de soi-même. Donc c'est bien l'esprit qui se pense. Vous voyez la pensée de la pensée d'Aristote. Alors qu'on suit tout à fait différemment. Mais c'est très curieux de retrouver, au terme de cette position d'Hamelin, l'ultime moment d'Aristote, la pensée de la pensée. C'est suffisant de voir ces deux extrêmes de la relation. Et à ce point de vue-là, c'est quand même très unique de la relation. On voit pour Aristote, philosophie de la substance, la relation ou l'être relatif, c'est mieux. C'est le plus débile. Donc, l'être contient substance et être relatif. Et au terme, en passant par Descartes, en passant par Occam, en passant par Don Scott, les dégradations successives de la relation, au terme, on aboutit à la relation abstraite et la relation concrète, à la grande division de la philosophie d'Hamelin. Et la philosophie, la relation abstraite et concrète qui aboutit à la personnalité, qui est relation de la relation. La relation qui se retourne sur elle-même. Un cercle, la relation de la relation. Vous voyez, si vous regardez donc la philosophie de notre Occident, vous voyez que ce qui est de plus débile devient le plus fort. Vous voyez la dialectique du maître et l'esclave appliquée dans ce qu'elle est ultime. Il y a le plus grand esclavage, c'est l'être relatif. Entier dépendant de la substance. Rien n'est plus magistral que la substance. C'est le maître absolu. Tout est relatif à la substance. Et rien n'est plus relatif, rien n'est plus esclave. Vous voyez cette chose curieuse, hein ? Faut pas oublier, hein, la philosophie hegelienne est une philosophie de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe quand je regarde d'Aristote à Hegel? C'est l'esclave qui a absorbé le maître. C'est pas dit ça, hein. C'est mon herméneutique. C'est très curieux. Cette justification. Vous voyez, de la dialectique du maître et l'esclave, vous la trouvez du côté de l'opposition la plus grande, substance relative. Et ceci, c'est le devenir qui absorbe l'être. Au cœur du devenir, quel est le principe principal? L'opposition des contraires. Principe dominant. L'opposition des contraires. C'est le principe premier de Hamelin. Et dans la réalité, qu'est-ce que vous avez si vous êtes attentif? Premier élément des choses ne peuvent faire qu'un. Et le premier élément, c'est le rapport. Quel premier élément? C'est le sujet. qui est relatif à autre. Oui, c'est le devenir qui est pensé comme l'absolu et comme être. Bon, ceci, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas étonnant que la scolastique elle-même, donnant des armes à l'intelligence, est complètement absorbée par la dialectique. Si la relation est première, la seule manière de penser, c'est la dialectique. Si la substance est première, la seule manière de penser, c'est l'analogie. C'est pour que vous compreniez, il y a quelque chose de très interne dans ce développement de la pensée. Malgré ça, nous maintenons la primauté de l'être et de la substance. C'est-à-dire, nous avons renversé cette dialectique hegelienne. Nous allons maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la relation. Alors, premièrement, le langage nous manifeste l'importance des termes relatifs. Le structuralisme. Le langage n'est-il pas en lui-même un tissu de termes relatifs les uns aux autres? C'est pour ça que le langage ne peut être intelligible que dans son tout. Le langage est un tissu de termes relatifs. D'autre part, soulignons bien que certains termes ne peuvent se comprendre qu'en fonction d'un autre terme, qui leur est corrélatif. C'est sûr, le langage nous montre bien ça. Le langage est lui-même un tout dans lequel on est en présence d'un tissu de termes corrélatifs. Les attributs sont tout entiers relatifs à leur sujet. Et plus profondément encore que les termes universels, sont totalement relatifs au terme singulier. Ils s'identifient à leur sujet. Ils se perdent dans leur sujet. Et ça qui est curieux. Dans le langage, qu'est-ce que vous avez? Pierre est intelligent. Eh bien, c'est Pierre qui absorbe l'attribut. Pierre est un homme. C'est le sujet qui absorbe tous les attributs. Ce qui est l'identification. Vous voyez, le sujet devient quelque chose de monstrueux. Le noyau autour duquel tout va se tourner. Alors on aura un tout. Et c'est le sujet qui prend tout. Tout est relatif au sujet. Puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a des propositions relatives avec d'autres. Pierre est intelligent. Pierre est bon. Dans le langage. Vous avez des propositions relatives à d'autres propositions. S'il pleut aujourd'hui, demain il fera beau. Je peux être à peu près sûr. Des constantes. S'il fait du soleil aujourd'hui, demain il pleuvra. Grâce à la Loire. Mais vous êtes dans des sujets relatifs tout le temps. Puis alors, il y a des termes dont la signification elle-même est relative. Donc, le langage est un tissu de relations. n'avait jamais d'absolu, sauf le sujet, qui est un absolu momentané. Le langage, si important qu'il soit, ne peut cependant pas s'identifier au réel. Le langage est là comme un signe. Bon, premièrement, le langage signe que le relatif joue un rôle capital dans le discours. Et donc, dans l'œuvre de l'intelligence, mon intelligence réalise le langage et l'intelligence réalise un tissu de relations. L'intelligence ne peut pas réaliser autre chose qu'un tissu de relations. Vous ne pouvez pas réaliser autre chose. L'œuvre de votre intelligence, c'est le relatif, c'est la relation. Si vous regardez maintenant l'expérience de votre vie humaine, de notre vie sensible, intellectuelle, notre vie affective, nous voyons le rôle extraordinaire du relatif. Toute réflexion sur nos connaissances nous dévoile l'existence de relations dont le caractère demeure difficile à préciser, mais dont l'existence ne fait pas de doute. Je vois cet arbre, cogito. Je me cogite moi-même, vous voyez, le terme. Quel point de départ? Commencer par le cogito, c'est se cogiter soi-même. Que Descartes ne dit pas « je cogite une maison ». Il dit « cogito ». Si vous mettez « cogito » en absolu, c'est en réalité la pensée qui se pense. Et au fond, c'est la conscience. Donc c'est la relation à l'état pur, et à l'état ultime. C'est vrai que tout le domaine de notre connaissance, c'est un tissu de relations. Si vos connaissances impliquent des formes intentionnelles, toutes vos connaissances sont dans le relatif. Je peux dire la même chose pour votre vie affective, pour notre vie affective. L'amour est une relation. Et l'amour est fondamental. Puisque c'est l'amour qui, de fait, est à la racine de tout le point de vue passionnel. Donc, toute notre vie affective, toute notre vie affective, toute notre vie de connaissance, toute notre vie affective, tissu de relation. Pas autre chose que ça. On est en présence de relations constantes. Regardez vos actions morales, l'intention. L'intention, est-ce que ce n'est pas une relation? Ce n'est pas une substance. C'est une forme intentionnelle. Or, l'intention commande toute ma vie morale. Regardez votre vie artistique. Vous travaillez. Le bois, qu'est-ce que vous faites? À partir de la matière, vous élaborez des relations. Ne faites pas autre chose que ça. Une œuvre d'art, un tissu de relations, fabriqué par l'esprit. Des relations multiples. Sont des relations. Est-ce que la forme n'est-elle pas elle-même relation? Ah, on a dit que la forme était qualité. Est-ce que je crée des qualités? Non. Je mets une qualité que j'emprunte à la réalité en présence d'une autre qualité. Je n'ai jamais inventé une qualité. L'homme n'a jamais inventé une qualité. Il n'y a pas de qualité de raison. Donc la forme est premièrement réelle, qualitative, et en second lieu, relation. Ah, c'est là, vous voyez, où je trouve quelque chose de très intéressant. Je vois que dans le langage, le sujet est quand même quelque chose de très net. Le langage me met en présence.